Alors, je vous propose le commentaire d'un texte de l'Évangile bien connu, notamment pour sa dernière phrase. Alors, ce commentaire est tiré de l'Évangile de saint Matthieu, au chapitre 22, versets 15 à 21. En voici la lecture. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende de qui sont-elles ?»« De l'empereur César, » répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors je disais, ce texte est très connu notamment pour ce « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous en ferons un commentaire justement tout à la fin de cet enregistrement. Alors je vous propose un commentaire linéaire de ce texte. Et j'espère que vous verrez que même un passage de l'Évangile qui paraît connu, ou de la Bible qui paraît connue, peut receler encore des perles, et peut toujours nous surprendre. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Alors les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Trop souvent, malheureusement, les motifs dans nos relations avec les autres, c'est notre propre intérêt. Et nous sommes souvent faux. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que nous pensons et ce que nous disons et nos agissements. Ce qui motive ici les pharisiens, c'est un double jeu. Cela est très souvent fréquent, notamment dans la politique, mais trop souvent quand nous avons des responsabilités, nous justifions ce décalage en disant justement que la fin justifie les moyens. Il faut apprendre à être différent. Et la suite... Il lui envoie, donc les pharisiens lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Justement, c'est le problème. Nous sommes trop souvent accompagnés des partisans d'Hérode. Ici, ce sont des politiciens, des gens de ce monde. Trop souvent, nous n'avons pas en tête le royaume de Dieu, mais bien au contraire, nos propres intérêts. Ou parfois, nous oublions vraiment le but ultime qui est la spiritualité, qui est la venue du royaume de Dieu. Et alors, nous commençons petit à petit à abaisser les exigences de notre foi, et c'est là où justement nous mettons, comme on dit, de l'eau dans notre vin, c'est-à-dire que nous commençons à agir de plus en plus selon les critères du monde. Alors, maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu, tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? Ou, question piège. Voyez, ils enrobent les choses pour après porter le coup de grâce. Eh bien, il faut vraiment se garder de ce type de relation avec nos frères. Alors, c'est le décalage entre nos paroles et nos actes, entre nos pensées et nos paroles. Là, vraiment, c'est l'hypocrisie. Trop souvent, nous sommes polis, ce qui est bien, mais nous disons une chose et par derrière, nous en disons une autre. Nous critiquons. Hein, ça me rappelle cette parole de Jésus, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il faut être vrai dans nos relations. Il faut que ce qui guide nos relations soit la gloire de Dieu et donc l'amour de nos frères. Que vraiment ce qui nous motive, grâce à un esprit de prière, demandons-le au Seigneur, ça soit vraiment d'être pleinement investi dans nos relations, sans faux semblants, sans hypocrisie, sans barrière de protection, que nous nous donnions entièrement, que nous sachions donner entièrement et recevoir entièrement dans un esprit d'ouverture. C'est ça le chrétien dans sa relation. C'est ça celui qui ne veut pas être accompagné des partisans d'Hérode. Parce que vous voyez ici, le portrait qu'ils font de Jésus est tout à fait vrai, ils font un portrait de Jésus tout à fait exact, mais ça n'atteint pas leur cœur. Alors ce qui m'amène aussi à ce point, non seulement il faut éviter un décalage entre notre façon de penser et notre façon d'agir vis-à-vis de nos frères, mais tout simplement par rapport à la foi. Évitons le décalage entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Hein? Ici, ils professent quelque chose de vrai, mais en fait, leur seul but, ce qui vraiment est dans leur cœur, c'est de piéger Jésus. Et bien que notre foi ne soit pas simplement dans notre tête, mais aussi dans notre cœur. Et que donc, dans nos frères, avec nos frères, dans nos relations avec nos frères, que ce soit notre cœur qui parle et non notre tête. Alors nous éviterons l'hypocrisie, la flatterie, et au lieu de nous rechercher nous-mêmes dans les autres, ce sont leurs propres intérêts que nous chercherons, dont l'intérêt suprême pour nos frères d'ailleurs étant leur rencontre avec le Christ, et donc la gloire de Dieu. Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Alors vous voyez, Jésus ne rentre pas dans ce petit jeu. À l'image de Jésus, nous devons refuser ces relations qui finalement ne sont pas des relations vraies la plupart du temps, car il y a toujours une protection. Nous ne nous livrons pas entièrement. Nous avons toujours une arrière-pensée. Jésus veut vraiment entrer en communication avec nous de tout son être. Nous-mêmes, nous devons accepter de nous donner pleinement, qu'il n'y ait en nous point d'hypocrisie. Vous voyez, c'est très très important, parce qu'autrement notre témoignage, notre vie de foi va être contre-productive, parce que les gens auront vite fait ou tôt fait de voir la contradiction entre notre tête, ce que nous professons, et notre cœur, ce que nous vivons. Donc Jésus veut une relation vraie. Nous aussi, nous devons, par la prière, demander à Jésus d'avoir toujours une relation plus vraie, que ce qui motive nos relations ne soit pas notre intérêt, c'est la flatterie, etc., mais vraiment l'intérêt de nos frères et l'intérêt de Dieu. Que l'amour de Dieu et de nos frères soit premier dans nos relations. Alors nous serons vrais et on ne pourra pas nous qualifier d'hypocrites. Alors après, Jésus dit « Montrez-moi la monnaie de l'impôt ». Il ne refuse pas de répondre à leurs questions, mais après une mise au point. Nous-mêmes, nous devons assumer le témoignage, mais ce témoignage, pour être vrai, pour être crédible, doit d'abord avoir fait cette purification que Jésus nous montre. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Il faut d'abord avoir à accepter d'être vrai avec nos frères, par exemple d'éviter donc justement la flatterie, d'éviter de rechercher nos propres intérêts, d'éviter de dire blanc et par derrière de critiquer, de dire noir. Donc, il faut, une fois que nous avons fait, grâce à Jésus, dans un esprit de prière, cette purification, alors seulement notre témoignage sera crédible. Alors, il vaut mieux éviter de témoigner tant que nous n'avons pas vraiment pris au sérieux notre foi et les conséquences de notre témoignage. Trop souvent, nous disons, nous sommes chrétiens, voilà, comme ça, comme on dirait, je suis de droite ou de gauche, telle est mon opinion, et voilà, c'est tout. Eh bien non, il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux. Jésus ne répond aux questions, ne rentre dans le jeu de l'enseignement, du témoignage, qu'après avoir vraiment assumé pleinement le véritable amour. Nous aussi, nous devons assumer pleinement le témoignage, pleinement les responsabilités que cela entraîne, en ayant une vie vraie, centrée sur l'amour, de prière, de sérieux. Alors oui, seulement notre témoignage sera vrai, seulement nous pourrons nous dire chrétiens. Vous voyez, ce qui m'amène à la chose suivante. Il vaut mieux d'abord témoigner en acte avant de se dire chrétien. Mais si nous nous disons chrétiens, alors là vraiment, il faut prendre nos actes et très au sérieux et redoubler de prières pour que justement il n'y ait pas ce décalage entre ce que nous disons, ce que nous professons et ce que nous vivons. Il y a aussi autre chose. Parfois, nous avons des responsabilités dans l'Église, on nous demande certaines choses, et nous considérons ça comme une occupation, comme un club. Je suis dans un club de football, de tennis, de je ne sais pas quoi. Et très souvent, dans ce genre d'association, c'est un faire-valoir. Eh bien, dans l'Église, ce n'est pas ce qui doit primer. Il ne faut pas du tout utiliser les responsabilités que nous pouvons avoir dans l'Église comme un moyen plus ou moins conscient, c'est vrai, mais qui est là, de nous faire valoir. Nous devons vraiment prendre nos responsabilités dans l'Église, parfois même d'enseignement, après avoir beaucoup prié, pour que justement ce qui motive notre témoignage, ce qui motive notre action, ce qui motive notre prise de responsabilité, soit la gloire de Dieu, l'amour de nos frères. Faisons très attention dans nos responsabilités d'Église, pour que nous ne prenions jamais ce qui nous est donné comme responsabilité, comme un moyen de nous faire valoir, mais que ce soit bien plutôt un moyen de rendre gloire à Dieu. Si nous voyons que nous avons cette tendance, alors prions beaucoup le Seigneur pour qu'il purifie nos motifs. Alors enfin, Jésus leur dit, montrez-moi la monnaie de l'impôt, ils lui présentèrent une pièce d'argent, et il leur dit, cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? Admirons la pédagogie de Jésus. Jésus enseigne très concrètement. Ce n'est pas celui qui fait de la philo très abstraite, avec des grands discours, mais Jésus agit concrètement, il enseigne concrètement. Le message, c'est que par Jésus, oui, par l'incarnation d'ailleurs, qui est vraiment la leçon suprême, la mise en lumière suprême du mode d'action de Dieu, eh bien, nous voyons que Dieu agit concrètement dans nos vies. Notre Dieu n'est pas un Dieu abstrait, un Dieu des philosophes, mais il est un Dieu qui est présent dans nos vies, discret, justement, c'est vrai, mais parce qu'il respecte nos libertés, il nous connaît bien dans notre cœur, il connaît nos réticences, mais il est justement, par sa discrétion et son amour respectueux de notre liberté, il est ce Dieu concret qui nous offre une amitié vraie. C'est pour ça que Jésus, très souvent dans son enseignement, recourt à des paraboles, que les prophètes de l'Ancien Testament recourent aux mimes. C'est une pédagogie de Dieu qui nous montre que Dieu se met à notre portée, qu'il veut être notre ami, qu'il veut être concrètement dans nos vies. Alors, c'est bien aussi pour ça que Jésus sollicite une réponse. Il pose une question, il veut une réponse. Jésus ne veut pas nous imposer sa présence. Jésus veut vraiment rentrer en dialogue avec nous. C'est bien pour ça qu'il ne veut pas l'hypocrisie. Nous-mêmes, nous devons accepter ce dialogue avec nos frères, nous donner véritablement et accepter de recevoir véritablement de nos frères. Eh bien, notre Dieu, c'est ce Dieu qui veut solliciter une réponse de notre part, réponse libre. Il ne veut pas faire de nous des esclaves, mais des coopérateurs de sa grâce. Il veut nous donner des responsabilités, il veut solliciter de nous une réponse, il veut que nous utilisions notre intelligence, il veut que librement nous acceptions de répondre à son appel. C'est bien pour ça que Dieu agit concrètement, mais dans le respect de nos libertés. Il nous offre une amitié vraie avec un grand A, celle qui nous permet de nous épanouir, qui nous donne aussi la parole. Alors apprenons à saisir cette opportunité, cette main tendue de Dieu, pour vraiment recevoir pleinement de lui et lui donner pleinement ce que nous sommes. C'est ça aussi la véritable relation par rapport à nos frères, mais aussi par rapport à Dieu. Pas d'hypocrisie avec Dieu. Et enfin, voilà la phrase qui est connue, qui est presque devenue un adage ou un proverbe. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, très souvent, cette phrase est citée, et à juste titre, comme un conseil de Jésus, ou une injonction de Jésus de séparer politique et religion. Et c'est vrai. Ça justifie notamment la laïcité bien pensée. Hein, la laïcité bien pensée. Parce que très souvent dans l'histoire, l'Église a dû assumer, elle a parfois pris plaisir à le faire, mais parfois elle a dû assumer un rôle politique. Mais elle a pris malheureusement trop souvent plaisir à le faire. Donc en mélangeant politique et foi, le résultat est désastreux parce que le témoignage justement devient un contre-témoignage. Et aussi, pensons à l'État qui a souvent aussi essayé d'utiliser l'Église. Il faut que l'Église reste indépendante et rende à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire qu'elle soit d'abord spirituelle. Dans nos vies très concrètement, nous aussi, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est faire tout dans un esprit de prière. C'est que ce qui motive nos actes et nos pensées et nos paroles soit d'abord la gloire de Dieu. Que le motif ne soit pas la politique, d'abord l'accroissement du pouvoir ou de notre influence, mais vraiment que ce qui nous guide soit la spiritualité, soit la gloire de Dieu. Et pour ça, il faut beaucoup prier, justement. Il faut tout faire dans un esprit de prière. Ça nous amène à se rendre à César ce qui est à César. Il faut effectivement être dans le monde. Et il faut bien se garder de devenir misanthrope, c'est-à-dire de fuir le monde en disant tous pourris, moi je vais me protéger du monde, ils sont tous perdus. Non, nous devons être dans le monde, communiquer notre joie, et nous devons avoir un certain enthousiasme. Mais ce qui protège notre enthousiasme de la naïveté, c'est que nous avons l'espérance, nous avons la foi, que notre action, si petite soit-elle, est accompagnée et devancée par la grâce de Dieu, tout comme notre action doit être devancée par la prière. Donc vous voyez, acceptons des responsabilités dans notre monde, Soyons dans le monde, non, ne le fuyons pas, ne méprisons pas nos frères qui sont souvent hostiles par ignorance à la foi, mais aimons-les en toute sincérité, en toute joie et avec beaucoup de zèle, mais avec un esprit de prière, sachant que ce qui est premier, c'est la grâce de Dieu, et justement cela nous protégera d'être aigris, car ainsi nous saurons que notre action n'est pas vaine, car elle ne fait certes qu'accompagner la grâce de Dieu, mais elle est utile, et justement elle accompagne la grâce de Dieu, qui est tout efficace. Si lente et respectueuse soit-elle des libertés et des réticences de nos frères, elle n'en est pas moins efficace parce que profonde, parce qu'elle va solliciter une réponse de nos frères. Alors vraiment, soyons pleins d'espoir, pleins d'enthousiasme et pleins de prière. Alors vraiment, nous pourrons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc je le dis, nous devons avoir un état d'esprit différent. Peut-être que nous ferons exactement la même chose en termes d'action dans nos vies, mais l'état d'esprit sera différent. Parce que vraiment, nous chercherons d'abord l'amour de nos frères, la gloire de Dieu. Nous chercherons justement leur bien suprême étant leur conversion à ce Dieu qui leur propose l'amitié avec un grand A. Donc nous les aimerons, nous prierons pour eux, plutôt que de les juger. Et de même, nos actions, nous aurons un certain recul, ce qui évitera que nous cherchions nos propres intérêts et que la fin justifie les moyens. Parce que vraiment, nous serons plus disponible à la grâce de Dieu et nous serons plus, comment dirais-je, plus détendus par rapport à notre action parce que nous aurons du recul, parce que nous saurons que c'est la spiritualité d'abord, que c'est l'action de Dieu qui prime et nous savons que tout ne dépend pas de nous, que nous avons un rôle à jouer, certes, mais c'est Dieu qui agit d'abord. C'est tout ça, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est seulement dans cet état d'esprit que la politique est valable pour un chrétien. Donc la politique n'est qu'un moyen et non un but. Le but étant toujours de prier et d'avoir Dieu à l'esprit. Voilà. Alors, j'espère vous avoir un petit peu aidé à mieux approcher ce texte. Maintenant, je vous suggère, si vous le voulez bien, une prière. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, apprends-nous toujours à être plus vrais et plus aimants dans nos relations avec nos frères et dans notre relation avec toi. Que ce qui prime, ce soit d'abord ta gloire et le bonheur de nos frères. Plus de faux semblants dans nos relations. Aide-nous à ne plus nous mettre en avant. Que ce soit dans nos relations de tous les jours, dans nos responsabilités dans ce monde ou même dans l'Église. Apprends-nous, Seigneur, vraiment à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Apprends-nous à agir dans ce monde, mais avec un esprit de prière et non pas pour chercher nos intérêts ou un accroissement de pouvoir. Nous prions pour notre Église, Seigneur, que toujours elle apprenne à rendre à César ce qui est à César, à agir en ce monde, à être proche des gens, à donner son avis, à parfois assumer des rôles politiques, mais sans oublier qu'elle doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu, que tout soit fait pour la gloire de Dieu, que tout soit nourri et justifié par la prière. Amen. Oui, Seigneur, que tous nos actes soient motivés par la prière, par ta gloire, par le bonheur de nos frères. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.